Le psaume 23 est sans doute un des plus connus, ou même le plus connu et chéri des croyants de tous les temps. Par des éléments empruntés à la relation entre un berger et sa brebis, il décrit la bonne providence de Dieu qui pourvoit à tous les besoins de ceux qui lui appartiennent. C'est un psaume qui exprime la grande assurance d'un enfant de Dieu dans les tendres soins de son Père céleste. Assurance qui le soutient même dans la difficulté de l'épreuve et qui lui permet de connaître le bonheur tous les jours. Tout le titre que j'ai donné à cette prédication, l'assurance et le bonheur d'une brebis de l'Éternel. Les textes bien connus peuvent nous placer parfois devant un défi, autant pour celui qui prêche que pour ceux qui écoutent la prédication. Ce défi vient de la familiarité avec le texte. Ah oui, je connais. Et le danger pour ceux qui écoutent est alors quelque part de se lasser, à moins que le prédicateur arrive à en faire sortir quelque chose de nouveau, de palpitant. Et c'est là exactement que se trouve le défi ou la tentation pour le prédicateur, c'est de penser qu'il faut trouver quelque chose de nouveau, de palpitant à dire. Et ce n'est pas seulement une tentation, c'est même un danger. Parce que c'est ainsi, par la recherche de la nouveauté et de ce qui est palpitant, c'est ainsi que naissent facilement les enseignements déséquilibrés, voire même carrément erronés. Si vous connaissez bien ce psaume, peut-être même par cœur, je n'ai probablement rien de nouveau à vous apprendre. Et en fait, je n'ai pas l'intention de vous apprendre quelque chose de nouveau. Mon seul désir, c'est d'exposer fidèlement le texte pour approfondir notre appréciation des vérités infiniment précieuses, libératrices, édifiantes qu'il nous enseigne. Et si vous connaissez bien ce psaume, je vous encourage à ajuster vos attentes. Si vous avez tendance à dire « Ah oui, ça je connais déjà. » C'est peut-être quelque chose que j'ai déjà dit et je le répète. Ce qui sauve, qui nourrit l'âme, qui a le pouvoir de nous édifier et de nous sanctifier, ce n'est pas la nouveauté ou ce qui est palpitant, mais simplement la vérité éternelle de la parole de Dieu. Donc, plongeons notre regard dans ce psaume, non pas en cherchant des choses nouvelles, des choses palpitantes, mais simplement pour goûter à nouveau, tout à nouveau, aux délicieuses vérités qu'il nous enseigne. Et ce que nous verrons dans un premier temps, c'est que ce que nous trouvons dans ce psaume est spécifiquement l'expérience du croyant, de ceux qui appartiennent à Dieu, de ceux qui font partie de son peuple. De ceux qui peuvent dire, selon les paroles d'un de nos cantiques, « Il est à moi, je suis à lui. » Ce sera notre premier point. « Il est à moi, je suis à lui. » Tout dans ce psaume dépend de la première affirmation. L'Éternel, le nom hébreu qui est utilisé et traduit par éternel, Yahvé est mon berger. Yahvé est mon berger. La traduction éternelle pour Yahvé, hein, pour le mot hébreu dans l'original, nous fait toujours perdre une certaine dimension de ce que le nom Yahvé, je suis, celui qui suis, implique en fait. Le nom éternel se concentre, ou la traduction éternelle, se concentre premièrement sur son existence sans commencement ni fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais quand Dieu a révélé son nom Yahvé, je suis celui qui suis, à Moïse, il l'a fait en concluant une alliance avec lui, en entrant dans une relation particulière avec lui. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de l'Alliance, dans lequel Dieu s'est révélé à Moïse et a révélé son nom, Yahvé, ce nom ne fait pas seulement référence à son existence sans commencement ni fin, mais à sa présence continuelle et particulière avec le peuple de l'Alliance. Parce qu'en même temps qu'il a révélé son nom, « Je suis celui qui suis », il a affirmé « Je suis avec toi, je serai ton Dieu ». Donc non seulement au moment où il révèle son nom, il révèle qu'il est celui qui n'a pas de commencement ni fin, mais il fait comprendre au même instant à Moïse qu'il sera de manière particulière avec lui. Donc le nom Yahvé ne véhicule pas seulement l'idée d'une existence sans limite, mais aussi l'idée d'une présence particulière et une idée d'appartenance. Et c'est cet aspect-là, l'idée de présence particulière et d'appartenance, qu'on peut perdre un peu avec la traduction « éternel » en français. On pourrait donc traduire cette première affirmation de David dans ce psaume en disant « Celui qui est avec moi. » Et pas juste comme observateur, il est mon berger. Cette première affirmation avec l'utilisation du nom Yahvé véhicule une idée d'appartenance et d'intimité. Et cette notion d'appartenance est renforcée encore par l'adjectif possessif « mon berger ». David ne dit pas juste « l'Éternel est un berger » pour décrire ses attributs, pour décrire qui il est. Il dit « il est mon berger ». Mon berger. David connaît le Dieu de l'Alliance. Il le connaît personnellement. Il a l'assurance que ce Dieu-là est son berger, qu'il lui appartient. C'est pourquoi toute cette première affirmation pourrait être paraphrasée en disant « Il est à moi, mon Dieu, il est mon Dieu, je suis à lui, je suis sa brebis. » Et la deuxième partie de la première phrase est simplement la conséquence logique de tout cela. Puisqu'il en est ainsi, puisqu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc la clé de compréhension de tout ce psaume et de l'assurance qu'il contient se trouve dans l'appartenance exprimée dans la toute première phrase. Il vous faut être sa brebis. Il faut qu'il soit votre berger pour que vous puissiez jouir légitimement de l'assurance et du bonheur que suscitent les vérités communiquées par ce psaume. Comment savoir si on est une brebis de l'Éternel? Comment savoir si on peut légitimement l'appeler mon berger? Mon Dieu. Nous trouvons la réponse à cette question dans Jean 10, où Jésus, Dieu fait homme, se révèle en étant le bon berger. En fait, c'est en Christ que ce psaume trouve son accomplissement ultime. Et dans ce chapitre, donc Jean 10, quand Jésus se révèle comme étant le bon berger, il dit ceci en confrontant ses adversaires juifs. Il leur dit: mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Une brebis du Seigneur se reconnaît à sa foi. Ces juifs auxquels il avait affaire n'étaient pas ses brebis parce qu'ils ne croyaient pas, vous voyez ? Donc une brebis du Seigneur se reconnaît à sa foi qui se manifeste par une obéissance confiante dans le berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles suivent parce qu'elles font confiance à ce que le berger leur dit, à la direction qu'il leur donne. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce premier point de l'appartenance à l'Éternel, au bon berger. C'est parce que j'ai observé que trop souvent, notamment dans ma parenté, des personnes qui citent ce psaume, qui le connaissent, qui l'ont entendu quand occasionnellement ils étaient à l'église, sans jamais se soucier de vivre une vie de disciple en cherchant à glorifier Dieu par l'obéissance à sa parole. Et je crois que ces personnes se rassurent faussement par les vérités de ce psaume. Faussement parce qu'il manque l'appartenance à l'Éternel. Pour vous qui vous êtes convertis au Dieu vivant par la repentance et la foi, pour vous qui êtes brebis de l'Éternel, par la foi, par une obéissance confiante à lui, vous pouvez effectivement et pleinement vous appuyer sur les vérités infiniment précieuses que ce psaume nous enseigne. Et c'est ce que nous voulons regarder de plus près dans un deuxième point, l'assurance d'une brebis de l'Éternel. Il est à moi, je suis à lui. Il y a la notion d'appartenance qui est la clé pour tout le reste. Et maintenant, l'assurance d'une brebis de l'Éternel. Puisque Yahvé est son berger, David jouit d'une assurance immense. Je ne manquerai de rien. En fait, le texte hébreu permet même de traduire « je ne manquerai jamais de rien ». Jamais. Pas juste à l'instant où il est en train d'écrire ce psaume. Mais je ne manquerai jamais de rien. Dieu pourvoira toujours. Maintenant, sur quoi repose cette assurance? Nous avons déjà évoqué la notion d'appartenance, qui est une clé. Mais en fait, cette assurance-là repose sur la compétence du berger. Imaginez que vous formez le projet de monter le Cervin, par exemple. Vous n'avez fait de l'alpinisme que depuis quelques années, votre expérience est limitée. Alors vous décidez d'engager un guide de montagne. Vous parcourez la liste des guides du canton de Valais, parce que probablement qu'il vaut mieux choisir un du Valais. Lequel choisir dans cette liste? Vous aviez envie de trouver quelqu'un de vraiment compétent, n'est-ce pas? Votre vie en dépend après tout. Mais il n'y a juste aucun moyen de savoir à partir de la liste qui est plus ou moins compétent. Maintenant, imaginez deux cas de figure. Voici le premier. Le jour arrive, vous avez rendez-vous avec votre guide de montagne que vous avez choisi. Au lieu du rendez-vous, un jeune gars vous accueille. Vous faites connaissance et il vous raconte plein de fierté et d'enthousiasme qu'il vient de terminer sa formation. Vous êtes heureux pour lui, et peut-être un peu moins pour vous-même. Parce qu'il est tout jeune et il n'a pas beaucoup d'expérience. Imaginez un deuxième cas. Le guide qui vous salue, qui vous accueille, est dans la cinquantaine, il a plus que 30 ans d'expérience comme guide de montagne. Il connaît le Cervin comme sa poche, il l'a gravi plus qu'une centaine de fois. En plus, vous découvrez qu'il est le président de l'association des guides en montagne du canton, expert formateur, et il collabore en plus avec Air Zermatt, qui fait appel à lui comme spécialiste de sauvetage en cas de besoin. Plus compétent que lui, il n'y a pas dans tout le canton. Avec lequel des deux jouirez-vous de plus d'assurance? L'assurance de David repose sur l'identité et la compétence de son berger, qui n'est personne de moins que le Dieu de gloire, infiniment grand, tout-puissant, bienveillant, généreux, sage, juste et bon. Si c'est lui, celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nous, il a tout, absolument tout, pour pourvoir à nos besoins. Il n'y a rien qui échappe à son pouvoir. Il peut pourvoir à tous nos besoins, autant en fait par des moyens ordinaires que par des moyens extraordinaires. Regardez encore comment David souligne la source derrière son assurance à la fin du verset 3. Il dit, Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de qui il est. Dieu a un nom, il a une réputation à préserver. Il est le Dieu infiniment glorieux et il ne peut faire autrement que de veiller au bien de ses brebis pour sa propre gloire. Voilà ce qui permet à David de dire « Je ne manquerai jamais de rien. » Parce que celui qui est mon berger, c'est l'Éternel en personne. Et dans les versets qui suivent, David élabore avec plus de détails en quoi l'Éternel pourvoit à ses besoins. Nous y trouvons une notion de repos. Il me fait reposer, verset 2, dans de verts pâturages. Il y a une notion de direction. Il me dirige près des eaux paisibles. Et verset 3 également, il me conduit dans les sentiers de la justice, dans ce qui est juste, bon. Et il y a une notion de nourriture. Cela est reflété dans l'image des verts pâturages et des eaux paisibles qui ont tout pour satisfaire la faim et étancher la soif. Autrement dit, qui ont tout pour faire vivre. Maintenant, il est très important de constater que les réalités affirmées par ce psaume sont premièrement d'ordre spirituel. Très important. Très important pour ne pas arriver dans une fausse compréhension et application de ce psaume, qui constituerait alors à en faire une promesse de bien-être physique et circonstanciel. Promesse qu'on trouve là où un évangile de prospérité est proclamé. Il faut nous rappeler que David utilise un langage imagé pour communiquer des réalités spirituelles. C'est là ce qu'il est en train de faire avec l'image du berger et de sa brebis. Il utilise un langage imagé pour communiquer des réalités spirituelles. Et plusieurs éléments nous montrent bien que l'application de ce psaume est avant tout spirituelle. C'est le cas pour la notion du repos, de la restauration de l'âme, de l'être intérieur, et le fait d'être conduit dans les sentiers de la justice. D'autres passages parallèles nous éclairent à ce sujet. Dans Jean 10, à nouveau, Jésus affirme qu'en tant que bon berger, il donne la vie éternelle à ses brebis, ce qui est un bien spirituel. Qu'elles ne périront jamais et que personne ne les arrachera de sa main. La promesse n'est pas celle de la vie et de la sécurité parfaite, physique parfaite dans ce monde. Ce n'est pas là ce qu'il promet. Il promet la vie éternelle. La vie est une sécurité éternelle, l'assurance d'une relation rétablie et assurée pour toujours avec le Créateur en personne. De même, dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, quand Jésus invite ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui, il leur promet le repos. Il leur dit « Je vous donnerai du repos », mais il ne leur promet pas un repos physique, premièrement. Ce qu'il peut aussi donner. Mais il dit « Vous trouverez du repos pour vos âmes ». Donc l'assurance de provision que David exprime à l'aide de cette image du berger et de sa brebis concerne premièrement les besoins de son âme, de l'être intérieur. Le besoin de repos de l'âme, le repos spirituel, de la paix de l'âme, le besoin de nourriture spirituelle qui produit la vie, qui permet d'espérer. Le besoin de sécurité spirituelle, le besoin d'une direction spirituelle dans les sentiers de la justice. Pas dans le sens qu'il nous enlève toute décision à faire dans cette vie, les choix que nous devons faire à tout moment. Non, il conduit dans les sentiers de la justice pour nous aider à comprendre et pour nous aider à suivre ce qui est juste, bon et qui est la voie du bonheur. Donc l'assurance exprimée par David est liée à la compétence du berger pour prendre soin des besoins de son âme. Et la compétence de Dieu à ce sujet, pour prendre soin des besoins de l'âme, sa compétence est complète. Elle est absolue. Il a pouvoir sur toute chose. Il est celui qui nous a créés, qui nous donne la vie. Il est celui qui a le pouvoir de ranimer les esprits humiliés et les cœurs opprimés. Ésaïe 57. Il est celui qui a le pouvoir de rendre à la vie ceux qui étaient spirituellement morts. Éphésiens chapitre 2. Ceux qui se trouvaient dans un état d'incapacité complète à cause de leur nature pécheresse. Il a ce pouvoir-là de ramener à la vie, de rendre à la vie, à la relation avec lui. Il est celui qui a le pouvoir de donner une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Une paix qui ne dépend pas de circonstances ou même de sentiments, mais qui découle de l'assurance de son amour, de sa puissance et de sa fidélité envers ceux qui lui appartiennent. Son pouvoir est tel qu'il peut donner leur repos à nos âmes, même face aux réalités les plus angoissantes et éprouvantes. Même face aux réalités les plus angoissantes et éprouvantes que nous pouvons rencontrer. C'est ce que David évoque par la suite quand il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Voilà ce qui me rassure. » Qu'est-ce que c'est que cette vallée de l'ombre de la mort? Cela fait-il référence à une situation de fin de vie où l'ombre de la mort s'allonge de plus en plus et finit par engloutir celui sur qui elle tombe? Sans doute que là, l'enfant de Dieu, la brebis de l'Éternel, peut connaître cette assurance, mais pas seulement. Un peu de topographie du pays d'Israël peut nous aider pour comprendre cette image de la vallée de l'ombre de la mort. Dans les régions d'Israël où on gardait beaucoup de brebis, il y a des vallées extrêmement escarpées, difficiles à descendre et difficiles à remonter, pénibles. Et ces vallées offrent en plus de nombreuses possibilités à des animaux sauvages, à des prédateurs, pour se cacher, pour sauter sur leur proie tout à coup. C'est quelque part le lieu des pires cauchemars d'une brebis, où elle se trouve le plus menacée, démunie, si livrée à elle-même. La vallée de l'ombre de la mort illustre en fait toute réalité qui nous confronte avec la fragilité de la vie et avec notre propre impuissance. Pas juste physique, mais aussi la fragilité de l'âme, notre impuissance de nous préserver et de la préserver par nos propres moyens. C'est toute réalité qui peut susciter angoisse et crainte. Mais quelle différence cela fait pour une brebis face à de telles réalités d'avoir son berger à ses côtés, de ne pas se trouver seule face à ces dangers-là, face à ces menaces angoissantes, de savoir qu'il est là pour diriger et pour protéger. C'est cette assurance que David exprime et qui le remplit de paix. Et c'est ce qui lui permet de dire « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » La houlette, c'est une sorte de longue baguette avec une extrémité recourbée. Vous avez peut-être déjà vu ces baguettes typique pour les bergers. Et c'est un outil pour prendre soin et pour diriger les brebis, avant tout. Ça lui permet de retenir une brebis, notamment, hein, avec ce bout recourbé. Il peut l'attraper par une patte, par exemple, ou même par le cou, pour la stabiliser, pour la préserver d'un danger. Il peut aussi l'utiliser pour pousser un peu et pour faire aller dans la bonne direction. Le bâton, comme il était et est encore utilisé par des bergers du Moyen-Orient, c'est plutôt une sorte de massue, en fait. souvent fabriquée à partir du tronc d'un petit arbre, avec une extrémité plus lourde et épaisse. Et d'après des sources compétentes que j'ai pu consulter, il ne s'agit pas vraiment d'un outil de correction. C'est là ce que nous associons assez facilement avec l'idée du bâton. Mais l'utilisation que les bergers faisaient et font encore n'est pas un outil de correction, comme on l'entend parfois, mais plutôt c'est une arme de défense, en fait, contre les animaux sauvages notamment. Et les bergers s'exercent même à apprendre à lancer ce bâton de manière précise. Donc il fait partie des équipements que David a utilisés pour tuer le lion et l'ours, par exemple. Hein, on a cette histoire dans 1 Samuel. Hein, il a tué lion et ours. Sans doute que cet outil-là l'a aidé pour cela. C'est encore l'arme, ensemble avec la fronde, dont il s'équipe pour affronter Goliath. Hein, ça nous montre que ce n'est pas juste un outil de correction, c'est une arme pour se défendre contre l'ennemi. C'est donc l'assurance de la présence de l'Éternel avec lui, en tant que berger, avec les outils nécessaires pour le diriger et pour le protéger, qui permet à David d'affronter ces réalités angoissantes avec confiance, sans crainte. Et là, à nouveau, il nous faut bien préciser que « je ne craindrai aucun mal » ne veut pas dire qu'aucun mal ne peut lui arriver. Peut-être un peu étonnant ce que je dis, mais quand il dit « je ne craindrai aucun mal », ça ne veut pas dire qu'aucun mal ne peut lui arriver, qu'il sera préservé de toute souffrance et sauvé de tout danger tout au long de sa vie. De la même façon que l'assurance de repos, de direction et de provision des premiers versets concerne avant tout des réalités spirituelles et le besoin de l'âme, l'assurance face aux réalités angoissantes aussi concerne premièrement les réalités spirituelles, les besoins et la sécurité éternelle de l'âme, de ceux qui appartiennent à Dieu. Quand Jésus se révèle comme bon berger dans Jean 10, c'est qu'il affirme que personne n'arrachera ses brebis de sa main. À nouveau, il dit cela par rapport à la vie éternelle, par rapport à la relation qui a été rétablie, leur relation qui a été rétablie avec le Créateur. Ils ne périront par rapport au fait que rien ne peut les séparer de lui. Même pas la mort, d'ailleurs, qui est la menace ultime pour nous dans ce monde. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Dans un autre passage, quand Jésus évoque des circonstances extrêmement angoissantes que ses disciples peuvent rencontrer dans ce monde, au point d'être menacés de mort, comme lui a été menacé de mort, il leur dit « ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ça peut arriver, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne, c'est-à-dire Dieu. Craignez Dieu. » Écoutez comment cette même réalité est soulignée par ce que Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 25. Il dit, il est en train d'écrire à des brebis de l'Éternel, à des croyants, « car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes, de votre être spirituel, votre être intérieur. » Est-ce que Dieu peut préserver de dangers physiques, délivrer de souffrances qui se trouve dans nos circonstances, d'hommes qui menacent? Bien sûr qu'il peut. Il l'a fait à répétition dans l'histoire. Il le fait encore aujourd'hui, et souvent probablement sans même que nous nous en rendions compte. Il peut le faire quand il veut le faire. Mais il ne promet jamais un bien-être et une sécurité physique absolue tant que nous vivons dans ce monde. S'il peut tout, ça ne veut pas dire qu'il veut tout. Et parfois, la souffrance, même la mort des siens, par la main des impies, parfois cela fait partie de son plan, plein de sagesse, pour sa gloire et pour leur bien éternel. Donc ce que Dieu assure par contre à tous les siens, c'est qu'il est le berger et le gardien de leur âme, infiniment compétent et équipé pour veiller à leur bien et les préserver pour la vie éternelle. Une question cruciale nous reste encore dans cette section. Que sont la houlette et le bâton du berger dans une perspective spirituelle que cette image cherche à illustrer? Autrement dit, comment est-ce que Dieu dirige, nourrit-il, protège-t-il, permet-il à l'âme de sortir victorieuse dans les rudes combats qu'elle peut rencontrer? Comment est-ce qu'il lui permet à l'âme de sortir dans la paix, dans une paix qui surpasse toute intelligence, et parfois même face à des circonstances qui n'ont pas changé du tout? La réponse, c'est par sa parole et son esprit qui agit en nous, qui avons cru. C'est là la houlette, le bâton que Dieu utilise envers nous. C'est par sa parole qu'il applique à notre intelligence et à notre cœur, par son esprit, qu'il nourrit l'âme, qu'il dirige dans les sentiers de la justice. C'est sa parole qui nous fait connaître ce qui est juste et bon, qui nous fait connaître le chemin du bonheur. C'est par elle, par sa parole, qu'il enseigne, convainc, redresse, éduque, nous dit Paul dans 2 Timothée au chapitre 3. C'est la vérité révélée qui nous permet de lutter contre le mensonge, un de nos pires ennemis, et contre le père du mensonge. Enfin, dans les versets 5 et suivants, nous trouvons l'abondance et le bonheur dont jouit une brebis de l'Éternel. Nous avons vu la notion de l'appartenance, nous avons vu l'assurance d'une brebis de l'Éternel, et troisièmement, le bonheur d'une brebis de l'Éternel. David dit au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » C'est un verset un peu surprenant. Une table joliment préparée, garnie, des soins corporels dignes d'un centre de bien-être. Tu oins d'huile ma tête. Et un verre bien rempli d'un bon cru. C'est à peu près la dernière chose qu'on imagine pour quelqu'un qui se trouve en situation de guerre face à un adversaire. Il est possible que David fasse référence ici à un incident qui est décrit dans 2 Samuel 17, lors de sa fuite après la révolte d'Absalom, son fils, qu'il a poursuivi au-delà du Jourdain. Et quand il est arrivé au-delà du Jourdain, à Mahanaïm, il rencontre trois hommes, Shoni, Makir et Barzilai, qui apportent à David et à ses hommes, écoutez bien, des lits, des bassins, des pots de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, du petit bétail et des fromages de vache. Autant dire pour une table bien garnie. Un vrai festin pour un homme poursuivi par un ennemi impitoyable qui cherche à le mettre à mort. Donc il est possible que David fait référence à cela, où Dieu, par ces trois hommes, a pourvu à ses besoins physiques du moment, réellement, et face à un adversaire, a mis devant lui un vrai festin. Il a béni avec abondance. Il est possible qu'il fasse référence à cela. Mais quoi qu'il en soit, l'image du texte est claire. Le danger est proche, la menace est grande, et face à cela, Dieu pourvoit avec abondance, une abondance de grâce aux besoins de son serviteur. David dit en quelque sorte, mes ennemis sont obligés de me voir jouir d'une abondance de grâce sans pouvoir l'amoindrir. Ils peuvent me menacer comme ils veulent, mais je me trouve béni d'une abondance de grâce par l'Éternel, par mon berger. Quelle est cette grâce? Une fois de plus, c'est de se savoir aimé et gardé par le berger par excellence. l'Éternel en personne, qui permet à ses brebis de connaître une assurance et une paix qu'aucune circonstance ne peut amoindrir. Si Christ, le bon berger, sait soutenir et garder sa brebis par une abondance de grâce, même en présence de ses ennemis, comme David le décrit ici, que ses ennemis soient des hommes, que ce soit le péché, que ce soit le diable, même la mort, existe-t-il une quelconque circonstance dans laquelle Christ ne pourrait et ne voudrait pas garder ses brebis dans la paix, dans sa paix? Si cette paix nous manque, nous pouvons la chercher auprès de lui. Enfin, la méditation de David sur le berger et gardien de son âme aboutit dans l'assurance d'un bonheur sans fin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. David fait ici une déclaration de foi. En fait, jusqu'ici, il vient de constater des faits que Dieu lui a révélés. Il fait ici une déclaration de foi en regardant en avant. Et cette déclaration de foi n'a rien de naïf. Elle est tout sauf une sorte d'autosuggestion idéaliste et déraisonnable. Parce que le David qui déclare un bonheur continuel est le même qui vient d'écrire les versets 4 et 5. Il vient d'évoquer l'existence de la vallée de l'ombre de la mort. Il vient d'évoquer l'existence d'adversaires redoutables. Donc il n'est pas en train d'embellir les choses ou de fermer les yeux sur les réalités parfois angoissantes de la vie dans ce monde. Il ouvre par contre pleinement les yeux en même temps sur la réalité révélée de Dieu, sur Dieu lui-même. La réalité de sa personne, de son amour, de sa bonté, de sa fidélité envers les siens. Le mot « accompagner », quand il dit « le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », n'est presque pas assez fort en fait. Le mot hébreu, si on le traduit de manière plus littérale, donnerait ceci « le bien et la bienveillance » me poursuivront. Autrement dit, même si j'essayais d'y échapper, je ne le pourrais pas. Dieu me poursuit par son amour et sa bonté. Et nous retrouvons en fait ici le mot chesed dont nous avons parlé la dernière fois. Chesed, l'amour fidèle et constant de Dieu pour les siens. L'enfant de Dieu, le disciple de Jésus, la brebis du bon berger, ne peut pas échapper à l'amour et à la bonté de Dieu, même s'il essayait. Parce que Dieu le poursuit continuellement par ses deux agents spéciaux, on pourrait dire. Nous n'aimons peut-être pas d'habitude l'idée d'être poursuivi, n'est-ce pas? Mais on n'a rien à craindre si on est poursuivi par l'amour parfait et la bonté infinie de Dieu, qui cherche constamment à nous rassurer et à nous bénir. La dernière phrase de ce psaume résume l'espérance ultime de David. Je reviendrai, ou littéralement, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours ou pour la longueur des jours. Et la structure du texte avec les particularités de la poésie hébraïque suggère que David procède ici en crescendo, qu'il n'est pas en train de parler deux fois de la même chose, mais il parle d'abord de ce qui l'attend dans sa vie, dans ce monde, mais après il regarde au-delà. Il n'exprime pas seulement sa certitude de l'amour et de la bonté de Dieu dans cette vie, durant ses jours sur la terre, mais encore il regarde vers la joie de la communion avec l'Éternel dans l'éternité, lorsqu'il habitera dans sa maison. Est-ce que vous connaissez le bonheur que David exprime ici? Le bonheur d'une brebis de l'Éternel. Dans notre recherche du bonheur, et qui ne cherche pas le bonheur, dans notre recherche du bonheur, nous faisons parfois du bonheur lui-même le bien ultime. Et nous risquons alors de ne jamais le trouver. Si tout ce qui nous intéresse, c'est de connaître le bonheur, nous risquons de ne jamais le connaître. Ce que ce psaume nous enseigne, et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir, c'est que le bonheur n'est pas le bien ultime. C'est une grâce qui découle d'un bien beaucoup plus grand, de Dieu lui-même, de la connaissance de l'Éternel, de l'appartenance à l'Éternel. Le véritable bonheur, celui qui ne dépend d'aucune circonstance de cette vie, ne peut être connu de manière isolée et détachée de Dieu. Ce bonheur ne peut être connu que par ceux qui peuvent dire « L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. » Êtes-vous sa brebis? Croyez-vous? Écoutez-vous sa voix et vous êtes-vous mis à le suivre dans une obéissance confiante? Il n'y a pas de meilleur berger que lui, le gardien de nos âmes, qui donne le repos, qui pourvoit, qui protège, qui conduit dans la justice et qui nous fait goûter aujourd'hui déjà au bonheur dont nous jouirons parfaitement dans notre communion avec lui dans l'éternité. Amen.